Dans plusieurs des jours, j'invite à suivre l'émission de Le Bois Simoné avec Jean-Claude Toumba Kamanga, la présentation.
Bonsoir. Dialogue entre Congolais, ce soir, un seul sujet, le partenariat RDC-Asie face à la coopération avec les partenaires traditionnels comme le FMI et la Banque mondiale. Les contrats passés entre la RDC et la Chine ne semblent pas très bien vus par le FMI. Des membres d'une délégation du Fonds monétaire international l'ont dit ce mardi dans un point de presse tenu à Kinshasa. Au FMI, on craint par exemple que les contrats entre la RDC et les Chinois n'alourdissent la dette extérieure congolaise. Pendant ce temps, le gouvernement congolais a signé le week-end dernier avec la Chine trois conventions avec le groupe d'entreprises chinoises. Elles visent la réhabilitation de la ville de Kinshasa, sans oublier l'arrivée progressive d'importants lots d'engins chinois. Quel est l'état de ces différents partenariats aujourd'hui? Que gagne la RDC en diversifiant ces partenariats? Voilà les principales questions de cette émission Dialogue entre Congolais, et nous en parlons avec Émile Bongeli. Il est ministre de la Communication, Presse et Médias et porte-parole du gouvernement. Jean-Pierre Boka, il est analyste politique proche de l'opposition. Et le professeur Kalele Kabila, docteur en sociologie, professeur entre autres à l'université de Kinshasa. Il a beaucoup écrit sur le FMI. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081-05-15-778 ou appelez-nous au 081-890-66-78.
Partenariat RDC-Asie face à la coopération avec les partenaires traditionnels comme le FMI et la Banque mondiale. Quel est l'état de ces différents partenariats aujourd'hui? Les contrats chinois reste une pierre d'achoppement entre la RDC et le Fonds monétaire international. Le FMI, qui juge satisfaisant le cadre économique en République démocratique du Congo, souligne cependant qu'un nouvel accord entre les deux parties ne peut être envisagé avant 6 mois. C'est l'une des conclusions d'une visite de 2 semaines à Kinshasa d'une délégation du Fonds monétaire international. Le FMI veut d'abord connaître l'impact que ces contrats chinois peuvent réellement avoir sur l'économie congolaise. Georges Kamoudjova a couvert pour nous le point de presse de la délégation du FMI ce mardi à Kinshasa.
Faut-il dire que la RDC s'endette en signant une collaboration avec les entreprises chinoises? L'État n'est pas emprunteur, disent les autorités congolaises. Réponse du FMI, la garantie que donne le gouvernement aux entreprises chinoises peut pousser à considérer qu'il s'agit d'une dette de l'État. Pour Xavier Marais, représentant du FMI à Kinshasa, les prochaines études aideront à clarifier l'apport chinois en RDC.
Il y a une étude de faisabilité du projet minier qui devrait être finalisé prochainement et qui devrait donc permettre d'apporter des éléments complémentaires au dossier, qui devrait donc nous permettre de mieux évaluer les impacts de ce projet sur la dette.
Les mines en particulier soutiennent l'économie congolaise à côté de la construction et de la télécommunication. Cette croissance économique pourrait passer de 8 à 10% cette année. La construction des infrastructures aiderait encore à augmenter cette croissance. Jean-Claude Massangou, gouverneur de la Banque centrale du Congo, estime alors que les études de faisabilité ne sont pas un frein à la poursuite des travaux chinois.
Cela n'empêche pas que les projets de reconstruction de route ne puissent pas débuter. Les engins sont là, sur le terrain, il y a des travaux qui ont déjà débuté.
Le montant déjà apporté par les entreprises chinoises s'échiffre à l'instant à 350 millions de dollars. La dette de la RDC, elle, est estimée à 11 milliards et demi de dollars. C'est donc après 6 mois qu'on saura si le mariage FMI-RDC tient toujours.
Les craintes du FMI ne semblent pas freiner l'élan du programme sino-congolais. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a donné vendredi dernier à Kinsuka, quartier ouest de Kinshasa, le coup d'envoi de ce programme. C'est dans son volet infrastructure. Il concerne la réhabilitation de la voirie chinoise. Selon le représentant de Exim Bank, une banque chinoise, le partenariat entre la RDC et la Chine est un modèle de coopération différent des méthodes utilisées par les pays occidentaux et qui correspond aux aspirations de la population. Écoute le représentant de la banque chinoise Exim Bank au micro de Claude Kanda.
我也要向大家报告，尊敬的卡比拉总统，吉丹加总统。
Moi, mes collègues chinois, nous estimons que la politique définie par le président de la République sur le financement du développement des infrastructures de la RDC par l'exploitation de ses ressources minières est une politique de haute importance historique, est un chemin de développement à la Congolaise, qui correspondant à la situation du pays pour le peuple congolais. Ces dernières années, les efforts consacré par le gouvernement congolais du président à la population traduit simultanément le désir du peuple pour le développement socio-économique. Comme on le sait, la Chine, le plus grand pays en voie de développement, a choisi un chemin de développement différent de celui de l'Occident et a obtenu de grands succès avec la politique de réforme et d'ouverture il y a 30 ans. En même temps, la Chine a trouvé un nouveau chemin de collaboration avec l'Afrique, différent aussi de l'Occident.
Voilà, monsieur Jean-Pierre Boka, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous n'êtes pas seul. On a aussi le professeur Kalele. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, Jean-Paul.
Et on a le ministre en ligne, au téléphone. Bonsoir, monsieur le ministre Bongeli. Monsieur le ministre Bongeli. Voilà, quelques petits problèmes avec le ministre. On va, Claude Quinza va s'atteler à le reprendre. Nous commençons par vous, Jean-Pierre Boka. Vous venez de suivre là le représentant de la banque chinoise Exim Bank. Pour lui, la Chine propose un nouveau chemin de développement qui est différent de celui offert par les Occidentaux à la RDC. Et du côté du FMI, vous avez suivi aussi ces craintes du FMI, du moins de la délégation qui était présente à Kinshasa, qui craint que les contrats chinois n'alourdissent la dette. Comment vous jugez, vous, le rapport des partenariats entre, d'un côté, la RDC et l'Asie, et de l'autre, entre la RDC et la FMI? Comment vous jugez ça, Jean-Pierre Boka?
Je trouve que deux partenariats peuvent se valoir, mais avec une certaine préférence pour les partenaires traditionnels, c'est-à-dire les Fonds monétaires internationaux, la Banque mondiale et les partenaires traditionnels. Mais concernant les nouveaux partenaires, nous devons faire très attention parce que nous n'avons pas encore une certaine visibilité vis-à-vis de ces nouveaux partenaires. Ils ne viennent pas, faisons attention, ils ne viennent pas pour nos beaux yeux, ils viennent pour leurs intérêts. La Chine est un pays qui a grandement besoin de minerais. Hein? Alors, ils viennent chez nous, peut-être nous faire croire qu'il s'agit de programmes, de contrats gagnant-gagnant, mais nous l'avons vu au Parlement, là où ils mettent 8 milliards, c'est dans le cuivre, c'est là où ils peuvent retirer 100 milliards rien que pour le cuivre. Je crois que nous devons faire très attention. Il n'y a pas seulement l'aspect infrastructure. Quand bien même on nous donnerait des infrastructures, il ne faudrait pas que ces infrastructures soient des éléphants blancs. Nous avons eu par le passé des infrastructures que nous n'avons pas pu entretenir. Mais nous aimerions bien que les Chinois, les Asiatiques, versent aussi dans les secteurs sociaux. Les partenaires traditionnels, vous les voyez dans la vaccination, dans l'éducation, dans la lutte contre le sida, mais les Chinois, vous les voyez rien que dans les infrastructures, dans les cadres de leurs intérêts. Nous aimerions également, vous avez vu les Asiatiques, il n'y a pas seulement les Chinois, vous avez vu les Saoudiens qui sont venus nous proposer un programme des hôtels de luxe, là où nous aurions besoin de maisons et d'habitations à caractère social. 500 millions de dollars rien que pour 3 hôtels, alors que si on construisait des maisons genre bandane, on pourrait construire 50 000 maisons.
Et là, évidemment, vous donnez quelques cas concrets, mais comment vous appréciez finalement ce partenariat RDC, Chine et puis RDC et ses partenaires traditionnels? Comment vous les jugez finalement?
Ah bon, je donnerai une préférence au partenariat traditionnel parce que vous savez, à l'achèvement de l'initiative PPTE, on va
représenter.
Oui, nous allons notre dette va se faire réduire de 9 milliards. Ce sont des partenaires qui posent des conditions de bonne gouvernance.
des conditions des droits de l'homme. C'est très important. Là où les Asiatiques ne font que du business. Et c'est très important qu'il y ait des conditionnalités, des bonnes gestions, des conditionnalités, des respects des droits de l'homme. Je vous dirais, je vous ferai rire. Je suis allé de chef de l'État.
Oui, mais rapidement, parce qu'on doit donner la parole à Émile
Bourguignon. Je suis passé du côté de la maison civile du chef de l'État. J'ai vu des gens en train de repeindre le mur. Vous savez, sur 5 personnes, il y avait 3 Chinois. Vous savez, une population de Chine qui a 2 milliards d'habitants, ils peuvent déverser sur nous.
Donc là, vous craignez, vous craignez donc qu'il y ait plus de main-d'œuvre chinoise. Voilà, on va prendre M. Émile Bongeli, M. le ministre. Bonsoir. Voilà, on vient de perdre encore une fois M. le ministre Bongeli. Nous revenons au studio avec le professeur Kalele. Professeur Kalele, vous avez suivi Jean-Pierre Bocca qui craint que, avec l'Asie, notamment la Chine, que la RDC ne se retrouve avec des éléphants blancs. Jean-Pierre Bocca estime que là où la Chine investit 8 milliards, elle pourrait en gagner 10 fois plus. Professeur, votre avis?
Bon, ça c'est ta lecture, hein, que je ne partage pas du tout. Moi je pense que une des lois fondamentales du capitalisme, c'est l'abolition du monopole. Nous avons les partenaires classiques, nous avons aujourd'hui la Chine et même l'Inde. Vous savez, lorsque nous n'avions que Air Zaïre, par exemple, lorsque nous n'avions que Telestel, quelles difficultés on ne rencontrait pas pour communiquer et pour voyager. Depuis qu'on a libéralisé aussi bien le marché de l'aviation que le marché de communication, il y a une concurrence, chaque entreprise cherche à améliorer ses services et c'est la clientèle, c'est la population qui en bénéficie. Donc il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Le partenariat classique, mais nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, depuis octobre 61. Qu'est-ce que ce partenariat a amené? Nous connaissons très bien les conditions imposées aux prêteurs d'argent. Ce partenariat a exigé jusque dans les années 84 le dégraissement de la fonction publique et de l'armée, donc l'augmentation du chômage, le blocage de salaire, la suppression des avantages sociaux.
Professeur Kalele, est-ce que vous voulez dire que finalement le bilan du partenariat entre la RDC et ses partenaires traditionnels, et FMI notamment, c'est un échec?
Ce n'est pas seulement au Congo ici. Partout, ça a été un échec. Et même ici au Congo, Mobutu avec Kengo, qui était gratifié d'être les élèves modèles du Fonds monétaire international, ont dû déchanter en 86. Il y a eu une réunion du comité central avec un seul point à l'ordre du jour, la critique contre la politique du Fonds monétaire, la Banque mondiale, et Mobutu a parlé des affameurs du peuple. Mobutu a dénoncé la rigueur pour la rigueur, qu'on ne mangeait pas la rigueur. Donc, je dis que...
Vous saluez donc la fin du monopole, hein, notamment.
On salue la fin du monopole. On voudrait que chacun, pour gagner le marché, améliore ses services. Et la population congolaise va, le pays, vont en bénéficier. Tous ces calculs qu'on a entendus au Parlement, 8 milliards contre 100 milliards, c'est des spéculations. Parce qu'on sait qu'il y a eu des politiciens congolais, aussi bien la majorité que de l'opposition, qui ont eu des arguments écrits dans les ambassades occidentales pour raconter des histoires qu'on raconte. Il y a beaucoup de contre-vérités là-dedans.
Voilà,
je crois que le gouvernement n'a pas pris les Chinois et chassé les partenaires classiques. Non, il a dit, je marche avec les deux. Et ça, c'est un droit qui est dû à la souveraineté. Mais il faut dire absolument que dans beaucoup de pays africains, comme asiatiques, la coopération avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire, a déçu.
Voilà, puisque vous suivez, vous avez évoqué ici le gouvernement, je signale quand même que vous êtes un ministre honoraire des mines, mais c'est pas à ce titre-là que vous êtes là. On a plutôt le ministre de l'information, plutôt le ministre de la communication, presse et médias, Nick Bongeli, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Bonsoir, monsieur le ministre. Monsieur le ministre Nick Bongeli. On n'arrive pas à la voir. Donc on revient dans ce studio. Je rappelle que nous parlons du partenariat entre la RDC et l'Asie face à la coopération avec les partenaires traditionnels comme le FMI et la Banque mondiale. Nous recevons Émile Bongeli, ministre de la communication, presse et médias. Il est encore difficile de l'avoir jusque-là. Nous avons le professeur Kabila, Kalele Kabila, voilà, docteur en sociologie, professeur entre autres à l'université de Kinshasa. Le professeur Kalele a beaucoup écrit sur le FMI et Jean-Pierre Boka, qui est analyste politique proche de l'opposition. Et finalement, Jean-Pierre Boka, vous venez de suivre là le professeur Kalele, qui lui est plutôt salue ce partenariat avec l'Asie, parce qu'il estime que c'est la fin du monopole des partenaires traditionnels, notamment le FMI et les pays occidentaux. Le professeur, évidemment, parle de ce bilan qui est un échec, selon lui, entre la RDC et le FMI. Et vous n'êtes pas de cet avis, M. Boka?
Non, je ne suis pas de cet avis, d'autant plus que nous ne devons pas confondre la façon dont nous avons utilisé les fonds qui nous ont été prêtés par nos partenaires traditionnels, Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et notre mauvaise gouvernance. Ici, je citerai l'ancien président tanzanien, Julius Nyerere, qui disait qu'un prêt, une dette, n'ont de sens que si l'emprunteur les utilise à créer une richesse qui permettra à les rembourser. Or, nous n'avons pas bien géré les choses. Nous avons pris de l'argent, nous l'avons mal géré, au lieu de l'utiliser à créer des richesses qui allaient permettre à le rembourser.
Donc, si je vous comprends bien, pour vous, si le partenariat avec le FMI notamment était un échec, c'est la faute en fait des gouvernements africains ou congolais
qui ont mal géré cette manne-là, parce que cela a amené par après à des politiques de conditionnalité, à des réajustements structurels, justement pour récupérer les fonds émis. Mais si, tel que l'a dit l'ancien président Julius Nyerere, que cette dette n'avait de sens que si nous, en tant qu'emprunteurs, nous l'avons utilisée à créer des richesses qui auraient permis de les rembourser, je crois que nous n'en serons pas là. Parmi les réalisations de nos partenaires traditionnels, le barrage d'Inga, ce sont nos partenaires traditionnels. La vaccination, la santé, l'éducation, tout ça, ce sont nos partenaires traditionnels.
Donc FMI, Banque mondiale.
FMI, Banque mondiale, Union européenne. La route du Bas-Congo. C'est l'Union européenne.
C'est pas la Chine.
C'est pas la Chine. Dernièrement, la route du Bandundu, c'est l'Union européenne. Les élections, ne soyons pas ingrats. Le financement des élections, ce sont les partenaires traditionnels. La sécurité, la MONUC, qui remplit un rôle important, ce sont nos partenaires traditionnels. Vous avez vu l'effort, ce sont nos partenaires traditionnels.
Jean-Pierre Boka, je ne vous coupe pas, excusez-moi, ouais. Juste le temps de tenter encore une fois, parce que vous avez eu le temps de parler. On n'a toujours pas eu le ministre Émile Bongeli, il semble que cette fois-ci, il est bien en ligne. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, monsieur le ministre, donc c'est... on n'a pas cherché à vous éviter, plutôt vous étiez invité, on voulait bien vous avoir dans cette émission. Vous avez suivi, j'imagine, ce qu'ont dit les deux autres invités, Jean-Pierre Boka notamment, lui qui a dit que le partenariat avec l'Asie, notamment la Chine, risque de nous donner, de donner au pays des éléphants blancs, alors que du côté du professeur Calinet, pour lui, l'ouverture vers l'Asie met fin au monopole avec les partenaires traditionnels. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur le ministre Mbongeni?
Merci beaucoup. J'ai suivi les deux intervenants. Je suis tout simplement surpris de voir M. Boka en train de défendre les théories que leurs propres auteurs ont déjà remis en question. Okay. Le Fonds monétaire comme la Banque mondiale ont déjà remis en question eux-mêmes. Et le Dominique Strauss-Kahn, l'actuel président du FMI, est en train de revoir les méthodes d'action du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Alors je suis très surpris de voir quelqu'un, un intellectuel, défendre les théories déjà périmées. Il parle des avantages de cette coopération. Je voudrais lui dire que c'est depuis 61, comme l'a dit le professeur Kalele, que nous sommes avec le Fonds monétaire. Nous devons payer aujourd'hui une dette de je ne sais combien de milliards. Qu'ils nous disent en fait qu'est-ce que nous avons comme acquis. Au moment où, au même moment, on était en train d'exploiter nos richesses, au même moment, on nous a fait entrer dans un engrenage de dette duquel nous ne savons pas sortir, et aujourd'hui, ils parlent de la mauvaise gouvernance, alors que c'est dans les conditions même de prêt du fonds qu'il y a les éléments pour appauvrir les plus pauvres.
Monsieur
Boka avait lu le professeur Kalele qui est à côté de lui, il n'allait pas reprendre des choses comme ça. Il y a eu beaucoup d'écrits. Les latino-américains, tout le monde a protesté contre les manières de la Banque mondiale et du Fonds monétaire.
Monsieur le ministre,
écoutez, ils ont parlé.
Oui, écoutez-moi aussi, s'il vous plaît.
Oui, mais il faut me donner le...
Vous aurez le temps, ne vous en faites
non,
pas.
Je voudrais d'abord faire remarquer
Une petite question.
Qui remet en question la coopération avec la Chine.
Je suis justement...
Est-ce qu'il suit ce qui se passe dans d'autres pays africains?
Je vous ai suivi, monsieur le ministre. Permettez-moi quand même de vous demander une petite précision. Parce que vous dites que non, les FMI avaient des conditions qui ne permettaient pas, en fait, aux pays sous-développés, notamment africains, de se développer. Est-ce que vous voulez dire qu'en fait, les pays africains géraient bien l'argent qu'ils recevaient ou qu'ils reçoivent des FMI, notamment?
Très bien. D'abord, l'argent que la Banque mondiale et les FMI envoient ici. Qui les gère d'abord? Est-ce que ce sont les ministres des Finances qui les gèrent ou bien eux-mêmes, avec leur conditionnalité, leur projet, leur administration parallèle? C'est eux-mêmes qui gèrent leur argent. Il faut le savoir. C'est clair et c'est connu de tous que c'est comme ça. C'est dans le fond, l'essence même des conditions de cette dette qu'il y a des conditions de création du sous-développement. Le professeur Kalele avait écrit il y a une vingtaine d'années, je pense, le Fonds monétaire international et la crise au Congo. Basu Sunamao. Alors, comment vraiment, au moment où tout le monde reconnaît, y compris le Fonds monétaire lui-même, il y a le professeur Joseph Stiglitz, qui était prix Nobel de l'économie, qui était vice-président de la Banque mondiale, lui-même a écrit des ouvrages pour dénoncer les méthodes du Fonds monétaire.
Voilà, monsieur le ministre.
Alors, comment...
Monsieur le ministre, oui. Puisque vous attaquez à Jean-Pierre Boka, vous dites pourquoi il doit soutenir, notamment...
Ils ont beaucoup parlé, il fallait quand même que vous me laissiez le temps de dire...
Je vous pose encore une petite question. Monsieur le ministre, c'est justement une petite question encore à vous, parce que vous venez d'arriver un peu en retard dans l'émission. Est-ce que ça veut dire finalement que la RDC tourne le dos une fois pour toutes au FMI?
Non, la RDC n'a pas tourné le dos au Fonds monétaire, à ses partenaires traditionnels en général. Lui-même, Boka a cité les cas de routes qui sont financées aujourd'hui par le Fonds monétaire international, mais nous sommes dans un système de concurrence. Nous sommes un pays ouvert. On n'a pas mis en concurrence d'abord, l'une des coopérations n'exclut pas l'autre. Pourquoi on doit s'acharner à ce que les deux ne fassent pas le même travail? Pour quelles raisons on doit s'acharner contre le dossier chinois? Et puis, il dit des choses incroyables. Lorsque, par exemple, il dit que les Chinois vont tirer 80 milliards contre 8 milliards qu'ils vont investir.
Vous n'êtes pas d'accord avec ça.
Est-ce que l'argent qui va, est-ce qu'on va prendre ces... Il n'y a pas de frais pour l'exploitation de ces mines. On va les prendre comme ça, sans frais, et on les amène. Et puis, qu'est-ce qu'il dit de notre participation au capital? Qu'est-ce qu'il dit de toutes les taxes que nous allons recevoir? Qu'est-ce qu'il dit de l'avantage grand, du très grand avantage que nous avons d'avoir des financements pour nos routes, avant même que les Chinois n'aient pris une seule tonne de cuivre?
Voilà. Voilà, monsieur le ministre, là, déjà, vous nous entraînez vers la deuxième partie de cette émission. Ne vous en faites pas, Jean-Pierre Bocca, pour ce calme, vous aurez le temps d'intervenir. Je rappelle seulement aux auditeurs que nous parlons du partenariat entre la RDC et l'Asie face à la coopération avec les partenaires traditionnels comme le FMI et la Banque mondiale. Que gagne la RDC en diversifiant ses partenariats ou ses partenaires? Nous abordons ce volet dans la deuxième partie de cette émission et n'hésitez pas à réagir.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Que gagne la RDC en diversifiant ses partenaires? C'est en rapport avec le partenariat RDC-Asie face à la coopération avec les partenaires traditionnels comme le FMI et la Banque mondiale. À propos de la diversification des partenaires de la RDC, Freddy Moulumba Kabwai, responsable du journal Le Potentiel, interrogé sur la question, estime qu'il est nécessaire que la RDC se tourne vers certains pays asiatiques tels que la Chine et l'Inde. Mais pour lui, il ne faut pas tourner le dos aux partenaires traditionnels. Le ballon, toujours selon Freddy Moulumba, est dans le camp de la RDC en ce qui concerne la gestion de l'argent que ses partenaires apportent. On l'écoute, il est au téléphone de Georgina Pala.
On peut toutefois travailler avec les Arabes, les Chinois, les Indiens, parce que l'argent se trouve là-bas. Et puis, notre côté, c'est un peu de répondre aux exigences qu'il faut mettre la Banque mondiale, parce qu'on ne peut pas, du coup, tourner le dos à nos partenaires traditionnels. Oui, je pense, sur le plan principe, la RDC gagne, mais même si les fonds monétaires, la Banque mondiale, ne sont pas corrects, c'est qu'on peut dire, mais les ballons, la balle est dans notre camp, parce que la gestion, il ne faut pas attendre que les fonds monétaires, la Banque mondiale, viennent donner des ordres. Nous-mêmes, on peut gérer d'une manière rigoureuse notre économie, de façon à ce que les biens de la population, s'améliorent. Mais de l'autre côté, vous savez très bien que même si les Chinois et les autres donnent de l'argent, si la gestion n'est pas rigoureuse, on va tomber dans le même pétrin.
Voilà, je vous rappelle que nous recevons Émile Bongeli, ministre de la Communication, Presse et Médias et porte-parole du gouvernement, Jean-Pierre Bocca, analyste politique proche de l'opposition, et le professeur Kalele Kabila, docteur en sociologie, notamment à l'université de Kinshasa, et qui a écrit sur le FMI. Jean-Pierre Bocca, vous avez suivi le ministre de la Communication, Presse et Médias, Émile Bongeli. D'après lui, la RDC gagne, même avec les Chinois.
Oui, monsieur Claude, nous ne sommes pas contre les partenariats avec les Chinois. Mais nous devons, comme le Parlement l'a fait, essayer d'évaluer les pesanteurs. Il peut y avoir des vices cachés. Vous avez suivi au Parlement.
Et quels sont ces vices selon vous?
Les vices cachés, c'est justement, vous avez vu, là où les Chinois mettent 8 milliards, ils ont tiré rien que pour le cuivre 80 milliards. Et un contrat de 30 ans renouvelable. C'est un vice caché. Il y a encore l'aspect main-d'œuvre. Vous savez, la Chine a 2 milliards d'habitants. Ils peuvent déverser chez nous 20 millions d'habitants, 20 millions de travailleurs, ça ne ferait rien.
Là, vous dites qu'ils peuvent, donc là, vous leur
oui.
Faites des intentions.
Hein. Oui, ils ont de la main-d'œuvre à exporter. Et puis, il y a une concurrence déloyale qui peut tuer nos industries locales, comme ça s'est fait ailleurs.
Concurrence déloyale par rapport aux entreprises congolaises, vous le dites?
Par rapport aux entreprises congolaises. Vous avez vu, on importe des tracteurs, des machines, alors que dans le temps, si Sany Metal et Sany fonctionnaient, on aurait pu monter des tracteurs ici et essayer d'impulser une sorte d'économie intérieure. Et puis, vous savez, ce sont des produits périssables. Nos minerais sont des biens périssables. On va les utiliser pendant 30 ans. Et après, peut-être, nous n'aurons rien. Regardez les cas de l'Indonésie, qui était un grand pays producteur du pétrole, qui maintenant est en train d'importer du pétrole. Nous ne sommes pas contre les prêts chinois, mais nous ne devons pas nous fâcher vis-à-vis de nos partenaires traditionnels.
quand nous avons organisé les élections ici, le professeur Bongeli lui-même est un élu du peuple de Kisangani.
Vous avez dit que les élections,
oui, les élections étaient financées par l'Union européenne. Mmh. On n'a pas vu les Chinois, voilà. On n'a pas vu les Asiatiques.
Mmh.
Vous avez vu la sécurité à l'est du pays.
C'est encore l'Union européenne.
C'est l'Union européenne. On ne voit pas les Chinois.
Voilà.
Quand tout est pacifié, on voit maintenant les Chinois venir recueillir les dividendes.
On va voir, professeur Carmelier. Tout est pacifié grâce à l'Union européenne, aux partenaires traditionnels, et le fruit, en fait, apparemment, ce sont les Chinois qui viennent cueillir. Ça, c'est d'après Jean-Pierre Bocard.
Non, je crois que tous les trois, les quatre intervenants, sont d'accord qu'on n'a pas chassé, qu'on n'a pas tourné le dos aux partenaires
traditionnels. Même si vous avez dit qu'ils sont en faveur des peuples.
Non, j'ai cité le président Mobutu.
Vous n'épousez pas ce point de vue.
Non, je dis que cette coopération-là, elle est négative. Je voudrais apporter quelques précisions. M. Bocca dit qu'au Parlement, on a fait des calculs, 8 milliards contre
80 milliards pour le cuivre seulement, ça, d'après Bocca, oui.
Bon, je dis que ce sont des spéculations. D'abord, je ne connais pas un seul cas où l'opposition a jugé positive une initiative du gouvernement.
Vous étiez membre de l'opposition à l'époque, hein, de l'UDP, vous ne l'avez jamais fait, donc.
C'est tout ce qui vient de celui qui est au pouvoir est négatif, même a priori. Donc, dès qu'on a parlé du contrat chinois, beaucoup ne l'avaient pas encore lu, il était constructif. Donc ça, ce ne sont pas des arguments valables, ce sont des spéculations. Et puis, l'exploitation n'a même pas encore commencé. Ces 80 milliards viennent d'où? Moi, j'étais aux mines. Je sais que une seule attestation, le nom technique,
oui.
Un seul permis de recherche, le code prévoit 15 ans. C'est 5 ans renouvelables deux fois. Parce que le travail de terrain n'est pas aussi simple que le commun du mortel le croit.
Donc
quand vous avez déjà le permis de recherche et que c'est concluant, vous passez au permis d'exploitation.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
En matière des durées, quand les gens parlent de
30 ans,
20 ans, ouais. 30 ans, etc. C'est si vous ne connaissez pas les mécanismes à l'intérieur, ça paraît beaucoup. Et on parle, je crois, pour un public non informé.
Et professeur, en vous entendant parler, excusez-moi, vous n'avez rien à reprocher au contrat avec les Chinois, apparemment, tout est rose.
Non, je ne le dis pas. J'apporte d'abord, je réplique. On nous a dit l'argent a été mal utilisé. C'est assez étonnant. Jean-Claude, comme mon ami Bocca ici, Vous ouvrez une alimentation ou un magasin d'habillement. Vous mettez quelqu'un pour vendre. Vous trouvez qu'il y a eu des pertes la première fois, des pertes la deuxième fois, des pertes la troisième fois. Vous allez continuer à le garder, à lui confier la gestion?
Là, c'est une image, mais qu'est-ce que vous voulez dire concrètement?
Je voudrais dire que quand on nous raconte que l'argent a été mal géré, c'est faux. Comme Bongeli le dit, c'est eux-mêmes qui gèrent.
Là, vous parlez de l'argent du FMI notamment.
Oui. Vous ne pouvez pas, logiquement, même quand vous êtes un peu malade mentalement, vous ne pouvez pas continuer à confier votre argent pour gestion, pour multiplication à quelqu'un qui ne fait que perdre. Si réellement les pays africains géraient mal le Fonds monétaire, la Banque mondiale, qui sont des commerçants, ne pourraient pas les garder au pouvoir, les soutenir et continuer à leur prêter de l'argent.
Voilà.
Ça ne répond à aucune logique. En plus, nous avons toujours été gratifiés depuis Mobutu jusque maintenant d'être l'élève modèle. C'est-à-dire que nous respections toutes les conditions et nous gérions très bien.
Oui.
Et je voudrais terminer par
l'éducation. Oui.
J'ai entendu dire, l'éducation, c'est grâce à tout ceci. Monsieur, quand moi j'ai étudié, j'étais boursier du gouvernement congolais. Mais c'est dans les années 84 que, sur exigence du Fonds monétaire, on supprime les bourses, le transport, la restauration et le logement des étudiants. Ils sont maintenant dans quelles conditions? On bloque les salaires, y compris aux supérieurs et aux primaires et secondaires. Il y a démotivation des enseignants et la qualité d'enseignement baisse.
Voilà.
Donc, alors, quel est ce positif de cet aspect-là? Je veux dire,
oui,
il n'y a personne qui récuse les autres interventions occidentales comme les routes et tout ça. Non. On dit les deux devraient pouvoir marcher ensemble, d'autant plus que eux-mêmes, les Occidentaux, coopèrent avec la Chine pour des montants beaucoup plus importants. Et en plus, ils sont en train même de délocaliser leurs entreprises.
Merci beaucoup, professeur Kalele. Monsieur le ministre, vous êtes aussi professeur, Émile Bongeli. Comment, finalement, vous dites, vous, je crois que vous appuyez, parce que vous l'avez déjà dit, le professeur Kalele, en disant que tous les partenaires ont leur place en RDC. Mais alors, comment vous expliquez, vous appréciez ou accueillez les réserves, on peut dire, du FMI, qui dit qu'il n'y aura plus d'autres accords à signer avec la RDC avant 6 mois, le temps de voir l'impact que peut avoir ou que peuvent avoir les contrats chinois sur l'économie congolaise. Si du côté du gouvernement congolais, vous vous dites que tous les partenaires ont leur place en RDC.
Merci beaucoup. Je reviens d'abord sur ce que mon ami Kalele a dit, que cette opposition-là, c'est une opposition que moi j'appelle obstructionniste, que je qualifie d'obstructionniste, qui disent non à tout, qui refusent de voir les moindres réalisations, les moindres bienfaits. Vous voyez bien que M. Boka a changé son langage, maintenant il reconnaît, non, nous ne sommes pas contre tout ça, mais qui a dit qu'on est contre le Fonds monétaire international? Je ne sais pas. Qui du gouvernement a dit que le Fonds monétaire, nous le chassons? Qui a dit que nous chassions l'Union européenne, parce que l'Union européenne continue à financer des projets ici. Donc, se faire avocat de l'Union européenne de cette façon-là, je pense que c'est très suspect. Alors, ensuite, il a parlé des routes et les fonds blancs. Ça, c'est un argument dangereux. Donc, nous n'avons pas besoin de routes ici chez nous. Il n'y a que chez nous où les routes peuvent être des éléphants blancs. C'est le seul pays au monde, ce sont les seuls intellectuels du monde qui refusent les routes. Dans un pays qui n'en a pas et qui en a besoin. C'est vraiment, c'est quelque chose de difficile à expliquer. Ensuite, ce minimalisme qui, ce ridicule qui nous pousse à dire non, parce qu'ils ont financé les élections, donc ils doivent nous contrôler. Parce qu'ils ont combattu, ils nous aident à pacifier l'Est, qui n'est toujours pas encore pacifié, alors qu'ils sont là. Donc, nous leur sommes redevables. Mais mon cher, c'est quand même dangereux qu'un intellectuel, un élu du peuple, raisonne de cette façon-là, parce que vous m'avez fait ceci, donc vous avez le droit de me contrôler, parce que c'est le regret du ministre de Dieu dont il fait l'avocat. Ensuite, ce qu'il ne dit pas, le professeur Kalele vient de le dire, aujourd'hui la Chine, tout le monde va en Chine. Quel est le pays qui ne va pas en Chine aujourd'hui? Les grandes productions aujourd'hui se font en Chine. Ce sont les capitaux occidentaux, américains en prime, qui ont développé la Chine par la délocalisation des entreprises.
Donc
tout le monde aujourd'hui va puiser en Chine. Il n'y a que nous qui en avons le plus besoin qui ne pouvons pas y aller.
Donc là,
aujourd'hui, je m'excuse.
Oui, terminé par
la parole.
Oui.
Et puis, il parle de 8 millions que nous avons hypothéqués et que nous allons reprendre 8 milliards. Eux vont retirer 80 milliards. Mais je l'ai dit, est-ce que les 80 millions de tonnes de cuivre, on va le prendre comment? On va le prendre par le doigt, il n'y a pas de frais de production, il n'y a pas de, donc il n'y a aucun investissement à faire, ils vont venir ramasser ça. Et ça, c'est malhonnête. Vous voyez la malhonnêteté, le mensonge des chiffres.
Bon, monsieur,
par les chiffres, ouais, on peut tromper comme ça la population.
Oui, monsieur le ministre.
Si, à supposer que ce soit 80 milliards,
oui,
c'est qu'il faut un minimum de milliards pour qu'on puisse transformer cette richesse dormante en richesse réelle. Comment il ne peut pas reconnaître ça?
Je pense qu'il faut
donner le temps,
oui,
aux gens que vous avez et que vous avez invités de dire la vérité.
Voilà.
Aujourd'hui, même le ministre belge va à Chine pour dire non, ne nous amenez pas des routes.
Voilà.
Il est relayé par des intellectuels congolais.
Monsieur le ministre, vous l'avez déjà dit. Monsieur le ministre Bongeli, vous l'avez déjà dit, hein, que c'est pas seulement la RDC qui va en Chine, même les pays développés vont en Chine. Nous vous gardons encore dans cette émission parce qu'il nous reste encore 4 minutes. Le temps de prendre quelques réactions des auditeurs, et elles nous sont sélectionnées ce soir par Kéline Couté. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Claude. Abbé Alain Lomadja depuis Lodja au Café Oriental pense que 48 ans d'indépendance devraient normalement donner lieu à des partenariats plus responsables en termes de gains réciproques. Mais l'Occident veut maintenir la RDC dans une situation comme une propriété commune au profit des grandes puissances. Les règles du FMI ne prennent pas en compte le social. Diversifié devient donc obligatoire pour qu'on ait le peuple juif de ses richesses. Romain de Goma au Nord Kivu demande au gouvernement congolais d'être reconnaissant envers les Occidentaux qui ont beaucoup investi dans les élections. Il pense que l'Occident a le droit de regard sur les contrats chinois qui est une dette de plus pour la RDC. Guy Bagoumba de Nguemena, l'Équateur, estime que c'est avec la Chine que la RDC va nouer une coopération objective dans laquelle le peuple se retrouvera. Bonne année d'Ouvira au Sud Kivu demande à M. Bourg s'il peut montrer deux édifices que les Américains et Occidentaux ont construits après l'indépendance pour qu'ils les défendent jusqu'à ce point. Pour Nestor Mirugi de Kisangani, dans la province orientale, l'approche asiatique est plus pratique que celle de l'Occident qui se caractérise par la bureaucratie.
Merci beaucoup, Kéline Couté. Beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vous demander à vous trois d'être un peu précis, concis aussi dans vos réponses. Rapidement avec M. Boka, par cette question qui vous est directement adressée, elle vient de Bonne Année de Vira au Sud Kivu, il vous demande si vous pouvez montrer deux édifices que les Américains occidentaux ont construits après l'indépendance pour que vous les défendiez à ce point. Qu'est-ce que vous répondez rapidement?
Mais oui, les édifices, ce n'est pas tellement, c'est seulement en termes de bâtiments, en termes de coopération. Je vous ai parlé de la vaccination, de la santé, de l'éducation, des routes, hein, vous avez vu tout ça. On ne va pas nous faire croire parce que nous avons une coopération maintenant qui n'est qu'une coopération dans une perspective d'avenir. Hein. On n'a encore rien vu, bien sûr, on verra. Mais on ne doit pas délaisser les partenaires traditionnels tout simplement parce que nous avons un nouveau partenaire. Ces mêmes partenaires, pour ne pas me répéter, qu'on n'a pas vu lors des élections. Quand il s'agissait de mettre des infrastructures, des structures en place, quand il s'agissait de pacifier le pays, on ne les a pas vus.
Voilà. Soyez vraiment court, hein, excusez-moi, parce que là, il nous reste qu'une minute pour vous permettre, en fait, d'aborder aussi les autres questions. Rapidement avec vous, monsieur le ministre, Nick Bongeli, à Romain de Goma, en Nord Kivu, qui demande au gouvernement congolais d'être reconnaissant envers les Occidentaux. Ça rejoint un peu ce que venait de dire, hein, monsieur Boka. Rapidement, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous répondez?
Je pense qu'il enfonce une porte ouverte parce qu'on n'a jamais délaissé. Comme veut le faire entendre M. Boka, il répète ça, on n'a jamais délaissé les partenaires traditionnels, mais ce n'est pas une raison pour nous empêcher d'aller de l'avant. Et je pense que je félicite notre ami de Lodja, de Guémena et d'Ouvira, n'est-ce pas, et même le dernier de Kisangani, qui ont très bien parlé. Je pense qu'après ce qu'ils ont dit, ça ne sert plus à rien de revenir sur le problème de vaccination.
Merci beaucoup. Nous reconnaissons
que la coopération est là, mais personne ne les a délaissés, mais personne n'a le droit de nous empêcher de chercher plus.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. On termine par vous, professeur Kalele. En quelques secondes, il y a Guy Bagoumba de Guémena qui pense qu'avec la Chine, la RDC n'aura une coopération objective. En un mot, professeur.
Oui, je dis que c'est comme on a dit, il faut laisser les gens faire la concurrence,
voilà.
Ils vont améliorer les services.
Merci beaucoup.
Vous permettrez que j'évoque.
Merci, professeur. On est vraiment à la fin. Un mot, juste un mot, professeur. On est à la fin.
Oui, mais il ne faut pas que les Congolais opposent les partenaires classiques aux autres, parce que quand on parle de la Chine, là, ils critiquent la Chine dans le palais du peuple construit par la Chine.
Merci beaucoup, professeur.
C'est au stade où ils jouent, là.
C'est la fin. Nous terminons par là, monsieur le professeur. Merci à tous de nous avoir suivis. Willem Lungamba était à la technique et Claude Kianza à la réalisation.